le midi.
On aime ce que vous faites.
All right.
13h30 minutes, on finit avec un de nos chums, David Chabot, qui est en studio, chroniqueur international.
Bah, érudit, là.
Un grand érudit.
Un érudit.
Pensais-tu que moi, je pouvais connaître un genre de gars de même quand tu m'as rencontré, moi?
Mais j'osais espérer qu'il y avait de ce type autour de toi.
Moi, les femmes de ma vie, puis les gars que je connais, puis mes amis me font toujours bien pareil.
Mais l'affaire, c'est que je pensais pas que lui pouvait t'avoir dans sa vie. C'est plus ça.
Ben, tu sais que chaque homme d'affaires, parce que David Chabot, quand je l'ai connu, moi, c'est un homme d'affaires, ils font un peu de bénévolat.
C'est ton projet gouvernemental.
J'étais son projet gouvernemental.
T'étais, donc là, t'es rendu correct.
Exactement.
OK, OK.
Fait que, mais là, il est là, il accepte de venir nous voir une fois de temps en temps pour nous éduquer. Salut, David.
Mais j'ai des bonnes subventions pour ça.
Ben oui, exact. Hey, c'est complètement hallucinant de revoir Zelensky avec Trump dans le bureau ovale. Les deux sont tout sourire. J'en parlais ce matin avec Maître Bellemare. Là. Si jamais Trump réussit à réaliser son pari, et qui mérite le prix Nobel de la paix, la Terre va imploser.
Ouais, c'est fini. Tout pète, bang!
Je veux dire, c'est quelqu'un qui a un CV assez particulier. Donald Trump ne laisse personne indifférent. Obama l'avait emporté en 2009, je me trompe pas.
Au début de son mandat.
Mais Obama, tu sais, j'ai jamais connu quelqu'un qui le détestait foncièrement. Mais Trump, il y a des gens qui le détestent foncièrement, puis c'est des gens qui sont assez vocales là, quand ils détestent Trump. Le voir remporter le prix Nobel de la paix, ce serait hallucinant.
Mais je pense que ça va arriver pour vrai. Parce qu'il est en campagne, là.
Oui.
Je sais pas si tu as la page Facebook de la Maison-Blanche, là,
non.
Qui est un organe de propagande pour chacun des présidents. Là. Évidemment, c'est la gang à Trump qui run ça. Puis il y a peut-être une semaine de ça, là, ils ont fait une image qui dit « Voici les gens qui appuient Trump pour avoir le prix Nobel de la paix. » Évidemment, t'as Israël là-dedans parce qu'ils sont super proches. Mais tu sais, t'avais genre, je me souviens plus, là, mais genre l'Ouganda puis le Zimbabwe. Puis c'est correct, c'est des pays légitimes, là, mais tu sais, t'avais pas la France puis l'Allemagne là-dedans.
Ouais.
Là.
Parce que lui ne peut pas se mettre sur la liste. Moi puis toi, si on l'aime, mettons qu'on aime le grand range l'autre bord, on peut pas le mettre sur la liste. Fait que ça prend des gens, des notables, là, avec des hautes fonctions pour le présenter, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
OK.
Des notables, comme dans les vieux villages. Hein?
Ben oui!
Des notables sur le perron de l'église. Là.
Oui, mais ça dépend quel notable. Tu sais, le maire de la Ville de Québec pourrait pas mettre Donald Trump sur la liste, je pense.
Non, je sais pas exactement c'est quoi le processus, mais tu sais, c'est ça.
Ça prend des gens importants.
Ouais, puis c'est pas toi-même non plus, tu sais. Fait que bref, mais...
Sous-estime-le pas.
Non, mais je te jure, je suis sûr que ça va arriver. Je suis convaincu de ça. Il y a certaines affaires qui sont quand même légitimes. T'sais, ça implique beaucoup. T'sais, il y avait le Cambodge puis la Thaïlande, on s'en était parlé, je pense, la semaine passée, que ça avait chauffé un petit peu.
Ouais.
Au Congo aussi, ça avait chauffé avec l'Ouganda, justement. Il avait calmé le jeu. Fait que, il a fait quand même certains gestes de paix. Ce qu'on s'attend d'un président américain quand même, mais l'ironie là-dedans, c'est qu'il s'implique dans des conflits qui n'ont rien à voir avec lui.
Exact.
Qui sont faciles à régler. Puis je veux pas y enlever du mérite, là. Je dis juste que c'est la réalité. Mais dans le fond, il se dit isolationniste aussi. Puis il veut se retirer des conflits en Europe.
Il veut pas que les Américains meurent dans les autres pays.
C'est ça, mais en même temps, il veut s'impliquer, tu sais. Fait qu'en tout cas,
économiquement surtout, avec des alliances pour la suite des choses, mais...
C'est ça, il souffle un peu le chaud et le froid, là, Pierre.
Toi, voilà. tu suis ça un peu depuis le début?
Ben, j'essaye.
Mais pendant que tu n'étais pas en onde avec nous, tu étais dans le corridor, à la réception aussi.
Ah, j'ai pas entendu le segment.
Tu étais assis sur ton siège et tu as vu des bribes de ce qui se passe en ce moment au bureau ovale à Washington. T'en penses quoi dans l'habit, dans l'ambiance et dans le ton actuel de cette... rencontre-là, j'allais dire négociation, mais il n'y a pas grand-chose à négocier pour eux. Hein?
Ben là, vois-tu, sincèrement, j'avais pas regardé, parce que je savais
les
qu'il
images,
rentrait,
okay.
Il rentrait à une heure et quart, tu sais.
Oui.
Là, ben, on voit, premièrement, Zelensky est en soute.
Oui.
Il est en veston. Fait que là, il se fera pas chicaner par Elon Musk. Puis là...
Il est tout en noir, par exemple.
Ouais.
Les deux se tiennent assez loin, ils se regardent très peu depuis le début. Là. Moi, je les surveille, là, c'est en direct. Là.
Ah, il était tout sourire tantôt, Pascal.
Oui, oui, non, ils se regardent très peu. Le regard, je parle, entre les deux, il n'y a pas grand-chose qui a été changé.
Mais là, tu sais, il y a un fondement là, là-dedans qui va faire que ça va casser à quelque part, OK? Parce que Trump est allé voir Poutine la semaine passée, vendredi. Là, ça a été couvert amplement. Puis là, les gens disent soit que c'est une grande victoire ou c'est une grande défaite de Trump. Là. Bon, on pourra en parler si vous voulez, mais... Le fondement de ça, c'est que Poutine dit faut que l'Ukraine me cède des territoires que j'ai pas conquis, puis là, je vais penser à un cessez-le-feu ou peut-être même à l'arrêt de la guerre, mais je garantis rien. Ça, c'est la position russe en ce moment, puis il y a bien d'autres choses, là, mais mettons, principalement, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, mettons que l'Ukraine, c'est une horloge, là, puis à midi, t'es en haut, à 6 heures, t'es en bas, là, on s'oriente comme ça. Kiev, là, la capitale, est vers midi. Okay? Mais toute la région, entre 3 heures puis 6 heures de l'horloge de l'Ukraine, c'est la zone de conflit actuelle, OK? Puis, il y a certaines provinces, parce que c'est des oblasts, là, qui sont l'équivalent d'une province chez nous, qui sont partiellement conquis, dont le Donetsk. Excusez-moi, mon ukrainien n'est pas à jour.
Personne ne va s'en rendre compte.
Non, ben, sauf les Ukrainiens qui peuvent nous écouter.
Oui, je m'en étais rendu compte, moi.
Toi, on s'excuse.
Ouais, j'ai plus un accent, bon, ouais, hongrois.
Non. Oui, exact.
Mais tout ça pour dire que le Donetsk, il est super important parce que l'Ukraine a bâti ce qu'on appelle la ceinture de forteresse, là. Puis dans cette région-là, finalement, c'est comme... c'est un 50 km de forteresse, littéralement, là, vraiment avec des bunkers puis de l'artillerie puis tout ça. Mais c'est aussi un pôle logistique extrêmement important pour la guerre dans toute l'est de l'Ukraine. Mm. Donc là, ce que Poutine propose, c'est de conquérir, on va dire, là, complètement cette province-là, incluant la forteresse en question, pour bypasser, finalement, tous les points de résistance. Puis après ça... selon lui, stabiliser les frontières du front, puis de dire on va faire la paix à partir de ce moment-là. Mais il donne aucune garantie de sécurité, il donne aucune garantie que le conflit va arrêter. Il fait juste dire 7 mois-là, puis on va jaser.
Puis déjà, la nuit dernière, la Russie a envoyé énormément de drones et d'attaques qui a tué beaucoup d'Ukrainiens.
Ouais.
C'est encore très violent, là, ce qui se passe, malgré discussion en Alaska entre Trump et Poutine, et là, ce qui se passe à la Maison-Blanche entre Trump et Zelensky. Là.
Absolument. Donc là, tu sais, le conflit est loin d'être sécurisé, ou en tout cas arrêté. Là, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui va sortir de cette rencontre-là pendant qu'on est live en angle.
Ouais, ben en fait, il y a des séances de travail qui sont prévues dans les prochaines heures, puis ce serait vers 18h30, 19h ce soir qu'on saurait exactement ce qui se passerait. C'est ce que Radio-Canada avait écrit ce matin. Ce qui est intéressant, c'est de voir, parce qu'on parle justement du sommet sur l'Ukraine avec Donald Trump qui est avec Zelensky, Poutine est en Russie. Il y a un autre sommet qui serait prévu avec les trois.
Ouais, si ça va bien aujourd'hui.
Mais ça, je veux dire, ce serait incroyable de réunir les trois ensemble. Ce serait un tour de force majestueux. Là.
Ben, je pense que oui.
Parce que je donnais pas cher de la peau à Zelensky à partir du moment où le conflit est terminé. Moi, je pense que Zelensky, il va tomber d'un cadre de fenêtre de sa maison ou il va tomber dans les marches quelque part.
Ou il va avoir du thé avec un peu de polonium dedans. Là, c'est des accidents qui arrivent.
En tout cas, bref, si on réussit à les mettre les trois ensemble, mais Trump travaille extrêmement fort dans le dossier d'Israël, bien entendu, contre le Hamas. Ou la Palestine, tout dépendant de comment vous voyez ça. L'Iran, pas l'Iran, mais le Liban aussi, mm-hmm. qui ont promis qu'ils allaient désarmer le Hezbollah.
Ouais, j'ai hâte de voir ça, là, mais ça a été dit.
Bien, parce que le Hezbollah est détruit là, quasiment dans son entièreté. Il reste peut-être 10 à 15% des combattants, puis les grands chefs ont pour la plupart tous été tués. Là.
Mm. Ben, la différence, c'est que le Hezbollah ne run pas le pays. C'est un groupe armé qui est lié avec le gouvernement, alors qu'en Palestine, la Hamas run le pays. Mais bref.
Exact. Puis l'Iran qui va tuer. Est-ce que l'Iran va continuer à financer ces groupes-là? Tu
sais? Ben, là, en ce moment, d'après moi, ils sont tranquilles un peu. Ils sont cocoche-palier en Iran. Là, on n'entend plus parler ben. Mais ils vont revenir, c'est sûr, parce que une idéologie comme ça, ça n'arrête pas du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, c'est critique comme journée. Sincèrement, je trouve que malgré toutes les critiques que Trump a reçues pour le meeting en Alaska avec Poutine, il fait les choses dans l'ordre, dans le sens qu'il rencontre un bord, il rencontre l'autre, puis il va essayer de trouver la position du milieu. Ce que j'ai hâte de voir, par exemple, c'est que la proposition que Trump fait, c'est de dire ben le fameux Donetsk que je vous parle tantôt, qui est super stratégique pour l'Ukraine, lui, il s'en fout un peu parce que c'est pas son terrain à lui. Là. Il n'y a pas vraiment de peau dans le jeu, là, skin in the game. Fait qu'il dit, garde, cède le territoire puis arrête de vous tirer dessus. Puis c'est une position que, à premier abord, tu dis, ça fait du sens, faut arrêter de se tuer. Donc c'est du territoire contre des vies. Fait que là, on va arrêter de prendre des vies puis on va juste donner du territoire en échange. T'sais, premier niveau, mettons, c'est simple de même. Le deuxième niveau, par exemple, de cette discussion-là, puis c'est pour ça que les leaders européens sont tous impliqués là-dedans, c'est oui pour appuyer Zelensky, mais aussi parce que après ça, c'est quoi, là? Parce que les fameuses garanties de sécurité de la Russie, là, ça n'a pas été respecté avec la Crimée. Tu sais, on en avait déjà parlé, là, il y avait un traitement en 92 où ce que les armes nucléaires ukrainiennes se retrouvaient en Russie.
Ouais.
Puis en échange, il y avait une garantie de sécurité qui est complètement éclatée en ce moment. Donc, dans le futur... Parce que c'est en Europe, là, ça réfléchit en centaines d'années. Hein. En Amérique du Nord, on est beaucoup dans l'instantanéité. La politique puis la géopolitique en Europe, c'est complètement différent de la mentalité qu'ils ont, ce qui est enseigné à l'école aussi. On voit les choses sur le long terme.
Ce qui est une excellente façon de voir les choses là, quand tu es un bâtisseur. Là, puis effectivement, ici, en particulier au Québec, parce que je connais au Québec, mais je connais pas comment ça se passe ailleurs, ici, on réfléchit à très court terme. Qu'est-ce que ça nous prend maintenant? Puis on se fout éperdument de ce que les gens pourront vivre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans.
Il y a une Absolument. Différence qui doit jouer fort en Europe aussi, c'est que c'est des regroupements de pays sur le même territoire, ouais. avec des cultures complètement différentes, une économie à défendre aussi, une politique qui diffère de pays en pays. Les alliances doivent être réfléchies avec deux coups d'avance. Puis je pense que même si ça se réglait, l'histoire Trump, Zelensky, Poutine... Bien qu'on aurait un cessez-le-feu ou qu'il n'y aurait plus d'attaques sur les territoires, toute la game politique continuerait de rouler avec la majorité des pays avoisinants et avec lesquels ils ont des alliances économiques, ouais. là, entre
ce qui,
autres.
Ce qui est certain, c'est que la Russie ne redonnera pas la Crimée.
C'est sûr que non.
Ce qui est certain, c'est que Zelensky, avec son pays, n'entreront pas à l'OTAN.
Ben, en tout cas, Poutine ne veut pas ça. Je vais dire ça comme
Mais
ça.
J'ai l'impression que c'est déjà réglé. Là.
Ben, c'est pas. C'est parce que c'est sûr que les États-Unis ont un gros levier sur l'OTAN, là, bien évidemment. Le chef de l'OTAN, d'ailleurs, c'est un de ceux qui va être là, à la Maison-Blanche aujourd'hui. Mais c'est la seule garantie de sécurité qui tient pour vrai en Europe. Parce que toutes les autres garanties que tu peux mettre sur la table vont toujours être éphémères parce que l'alliance militaire, pour vrai, c'est l'OTAN.
Qui va sortir gagnant? Bon, Trump, bon, parce qu'il négocie avec les deux puis il veut ramener la paix, va certainement sortir gagnant. Mais entre Zelensky puis Poutine, qui va sortir gagnant? J'ai l'impression que Poutine a réussi à avoir ce qu'il veut.
Ben jusqu'à maintenant, oui. Parce que en fait, là, tu sais, dans une négociation...
À part la crédibilité au niveau de la guerre, parce qu'on va se le dire, on pensait que la Russie allait faire... une bouchée de l'Ukraine. Là. Puis finalement, ben, ils ont été obligés d'avoir des combattants de la Corée du Nord qui ne savaient même pas ce qui s'en venait faire ici. Ouais. Là. C'était catastrophique. Il y a eu énormément de morts. Mais pour le reste, Poutine s'en sort très bien.
Oui, parce que c'est ça, tu sais, en négociation, dans le fond, tu mets les jalons au départ, tu es très loin, puis quand tu avances tes pions à toi, ils deviennent cristallisés dans la discussion. Dans le sens que on part très loin, toi puis moi, puis là, j'avance quelque chose, puis tu me proposes quelque chose en échange, puis on fait des compromis, puis on se rend dans le centre. C'est ça, une négociation. Dans le cas de Poutine, il a avancé ses jetons. Il a conquis la Crimée sans aucun effet négatif de ça, ou très peu. Puis il a envahi un pays souverain. Là. C'est pas banal, là, ce qu'il a fait. Là. Puis là, maintenant, dans le fond, l'espèce de position cristallisée pour à peu près tout le monde, c'est de dire, ben là, la ligne de front, c'est la ligne à long terme. Puis ça, c'est un peu inacceptable dans le grand schéma de la vie, parce que tu devrais jamais accepter qu'un pays puisse conquérir un autre pays par la force juste parce que ça y tente. Mais là, on en est rendu là, excusez-moi. Donc là, il a posé ses pièces. Fait que là, la négociation, c'est quoi que ça prend pour arrêter de se tirer dessus? Et non pas, peux-tu reculer tes jetons parce que moi, j'en ai besoin? Tu comprends? Fait que là, si les États-Unis étaient très, très, très du côté ukrainien, continuer d'envoyer des armes massivement puis avoir un discours très agressif envers la Russie, peut-être qu'on pourrait avoir comme position, si on veut, optimiste, de dire ben là, la Russie pourrait sortir complètement des fameux cadrans de 3 heures à 6 heures en Ukraine puis se contenter de la Crimée. Mais avec un président qui essaie d'être neutre, mais on voit qu'il favorise un peu quand même la position russe parce qu'il va redire des positions idéologiques russes en public comme si c'était une vérité, là. Ben ça n'arrivera pas de sortir du cadran 3 à 6 heures. Donc là, la question, c'est où on va stabiliser la ligne de front, puis surtout, comment on va faire pour s'assurer que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 22 ans, la Russie ne relance pas ses tanks en Ukraine pour conquérir le reste.
Parce que c'est ça qui est aussi très, très inquiétant. Là. Si on lui donne son rapport de force qu'il est allé chercher par l'invasion du territoire, puis il n'y a pas vraiment de conséquences, ben, parfait, on se revoit à la prochaine guerre, là.
Ouais. On va attendre que la prochaine génération vieillisse, là, parce que là, on va manquer de chair à canon maintenant. Ouais.
Oh, c'est pas drôle, hein, dis-moi. Ouais.
Sérieux, j'ai l'impression que j'ai raté un épisode. Ce serait pas la première fois, mais qu'est-ce qui fait que la Chine s'est totalement retirée des dossiers? Parce qu'au départ, on pensait que la Chine allait agir à titre d'intervenant là, pour ce qui est de la négociation. C'est un nouveau pays qui gère la paix dans le monde. Là. Finalement, ça s'est estompé très rapidement.
Bien, ça aurait été intéressant que la Chine joue ce rôle-là, surtout dans un contexte où les États-Unis veulent se retirer de l'échiquier mondial, là, ouais. Ou en tout cas être beaucoup moins actif. Mais la Chine, là, en ce moment... Ils se tapent la banane en riant, eux autres, parce qu'ils achètent de l'énergie pas chère à la Russie, parce que la Russie cherche des façons de sortir son énergie à cause des sanctions et tout ça. Ils payent pas cher cette énergie-là. Puis, ils ont pas vraiment besoin de s'impliquer. Tu sais, la philosophie chinoise, c'est de dire, on va avancer, eux autres aussi, là, nos intérêts à long terme, avec une vision du confucianisme, là, dans le fond. Puis de dire que à long terme, ça va fonctionner notre histoire. Fait qu'à court terme, j'ai pas besoin. Même si je souffre, c'est pas grave. Dans ce cas-ci, ben c'est pas une souffrance, c'est plus une opportunité manquée de se faire grandir. Mais dans le grand schéma, ils ont pas besoin de s'impliquer parce qu'ils gagnent en puissance parce que tout le monde s'affaiblit aux côtés.
les auditeurs qui écrivent « C'est expliqué d'une main de maître. Bravo, David. Merci. Bien un bon vulgarisateur. » Tu vois, on est en train de créer une bête, peu à peu.
Une bête. Non, j'essaie quand même de dire les choses clairement sans les rendre trop niaiseuses parce que je nommerai pas de chroniqueur, mais encore aujourd'hui.
Ah ben, c'est, oui, pas si.
Je lisais une chronique, on va dire dans le journal de Québécois. Puis là, tu sais, c'est comme Trump, c'est un ci, puis c'est un ça, puis c'est un narcissique, puis c'est un caf. Puis tu sais, tu gagnes pas à
non.
ça. Insulter quelque
non.
chose. Tu sais, dis-moi pourquoi tu penses ça.
Explique les choses qui fait mal, explique les choses qui fait bien, reste neutre, puis les gens vont te suivre. Mais si t'es trop partisan, tu vas avoir de là d'un gros épais si l'autre réussit à arriver à son objectif. J'avais oublié de dire aux auditeurs que t'étais aussi un spécialiste de construction.
Ben, spécialiste.
Et moi, je me posais des questions parce que depuis que j'habite dans le ghetto à Saint-Roch, écoute, j'ai 3-4 grues autour de moi, puis j'y regarde tournoyer la fin de semaine alors que le chantier est fermé. Et là, je me disais, mais David, pourquoi ils barrent pas ça? Toi, t'es un gars qui aime bien ça en construction. Fait que je t'ai dit, pourquoi ils barrent pas ça? Parce que je la vois tourner la grue, puis tu me dis, ben c'est bien simple, s'ils mettent ça barré, puis il y a des gros coups de vent, ça peut casser le mécanisme et tout ça. Là, ça, je te suis. Mais je me posais des questions aussi, David, à savoir, comment on fait pour monter une grue? Parce que quiconque observe une grue, on voit que ça monte haut en sacrifice. Tu disais, un peu, là. Ils ont fait comment pour monter ça? En plus, tu as des contrepoids. Je ne sais pas si tu as vu les fameuses dalles de béton là, qui sont un peu à l'arrière de la cabine du monsieur, mais à l'autre bout. Quoique, il y a des dames qui peuvent être grutières. J'en ai pas encore vu. Mais je trouve ça fascinant de voir ça lever dans les airs. Puis je me dis tout le temps, ils montent ça en une journée.
Ouais.
Même pas. Ils font ça comment?
Ben écoute, je vais essayer de le vulgariser là, pour les. T'sais, parce que c'est facile avec des gestes, là, mais en mots, c'est plus tough. Mais...
Les négociations Trump-Zelensky à
ben
la
oui,
grue.
La spécialiste de la grue.
Il y a plein de sortes de grues quand même. Il y en a qui sont sur roue.
Oui, oui
a...
c'est bon. Pas de ça que je parle.
Mais tu sais, les
grues.
Moi, grandes,
c'est
le
grandes, monsieur
là.
Qui est en bobette dans sa boîte en haut.
Parce que littéralement, ils le sont souvent.
Jamais en bobette.
T'imagines ça? Ben Pascal, t'imagines ça à chaleur en haut?
Ben oui, mais les droits du travail, puis tout ça, c'est nécessité. Parce que tu es en boxeur, tout troué, c'est quoi le fruit of the loop?
Ça travaille en pied de bois.
David sait que je suis bizarre. Là.
Oui.
Toi, tu commences à le comprendre. Mais sur TikTok, suis un gars...
N'hésite pas.
Je suis un gars qui est grutier. Puis il filme toutes ses journées en mode rapide. Puis sérieux, ça a l'air d'un métier passionnant.
Ouais, ça a l'air super le fun, mais tu as des grosses responsabilités dans les mains. Hein. Parce que si tu contrôles mal ta charge, si tu contrôles mal le mouvement, puis ça casse, ça tombe, tu blesses, tu tues, t'es responsable.
Ouh. À titre personnel ou l'entreprise avec des assurances blindées?
Je pense que c'est personnel. Ouais. Mais là,
si
c'est...
ça casse, d'après moi, tu peux être considéré comme responsable, mais tu n'auras pas à payer le prix.
Ben... OK. Honnêtement, je sais pas exactement jusqu'où ça va. Mais ouais, c'est ça. Là, si tu tombes, oui. Là.
Mais comment ils font pour monter ça de façon aussi rapide? C'est-tu d'autres grues qui aident la grue à monter? Ouais. Comment ça fonctionne?
Il y en a qui sont comme ça, mais mettons, les plus grandes qu'on voit, là, comme on a à Québec, là, c'est dans le fond, c'est des blocs qui s'assemblent un par-dessus l'autre. Donc là, on met le premier, ben, on met la flèche puis tout ce qui vient avec, là, ce qu'on voit vraiment qui manipule les charges. Puis après ça, on rentre un bloc en dessous de toute cette flèche-là. Puis là, on soulève ce bloc-là, puis on en rentre un autre en dessous, puis on soulève celui d'en dessous, puis on en rentre un dessous.
Fait qu'il monte la structure par-dessous.
Par en bas.
C'est un genre de jeu de Jenga.
Mais mettons, là, ouais.
On fait une image.
Mais il faut pas qu'elle tombe, là.
Ouais, ben, assurément.
Mais ça doit être fait fort en tabarouette.
Le jeu des mains, comme quand on était jeune.
Puis il faut que tu calcules les vents aussi, monter ça à cette hauteur-là, parce qu'il y a des grues dans le secteur de Saint-Roch. Là. Écoute, je sais pas c'est combien de pieds, mais tu sais, il y a du 13-14 étages à Saint-Roch. 13 étages, ça, je suis certain, là. Peut-être que tu pourras me dire, puisque tu connais ça plus que moi. Mais ils sont à hauteur du 13e étage, là.
Ben, tu te rends d'habitude un étage ou deux au-dessus du dernier plafond.
Ouais.
Donc, pas plus que ça quand même. Là, mais...
fait
que
ça monte à 13 étages. Ouais.
C'est
haut en sacrifice.
C'est brillant comme façon.
Vraiment. Puis ils montent ça par en dessous. Puis il faut qu'ils fassent ça des journaux où ils ne vendent pas trop.
Exact. Puis il y a des limites aussi là, pendant les opérations sur le chantier. Une fois que c'est monté, puis là, c'est en opération. Là, je ne veux pas dire n'importe quel chiffre. Là. Il me semble que j'avais entendu 45 km/h de vent. Peut-être qu'on peut me corriger live, là, mais. Donc là, tu peux pas aller plus. Tu peux pas opérer la grue à des vents plus élevés que ça. Fait que tu débordes la flèche, tu descends en bas, puis t'attends que ça passe. Là,
ouais.
Parce que sinon, c'est trop dangereux de manipuler des charges à ces vents-là. Puis il y a plein de. C'est fascinant, les grues, honnêtement. Là,
fait que là, on a compris que pour la montée, il commence par en bas, puis il monte avec toute la grosse charge, là, il monte ça par en haut. Quand c'est le temps de la démonter, bien souvent, il y a des grues qui sont mises à l'intérieur de la bâtisse. Je sais pas si tu as vu ça.
Ouais,
là,
ouais.
Sont mises à l'intérieur de la bâtisse. Quand c'est le temps de la démonter, est-ce qu'il recommence par en bas ou il démonte ça par en haut?
Ben là, C'est une maudite question, honnêtement, parce que là tu me pousses dans les limites de mes connaissances.
Mais, oui, je sais, je te regarde main.
Tu peux pas faire descendre la flèche par en dedans, évidemment.
Non, c'est ça.
Donc là, je pense qu'il enlève la flèche par une autre grue à très forte capacité.
Ben, c'est facile.
Sur roue, dans le fond. Ouais. Puis après ça, il enlève par l'intérieur, bloc par bloc, pour redescendre la tige, si tu veux. Là.
C'est fascinant.
Puis oui, c'est...
On a parlé, c'est moi qui saigne du nez, là. Okay. J'essayais de me faire une image.
Mais t'as tout compris, c'est simple.
Ah oui.
Mais c'est la construction en général, pour vrai, là, à tous les jours, j'apprends, puis c'est fascinant.
Ouais.
C'est des gars et des filles qui travaillent extrêmement fort. Là. La semaine passée, quand ils faisaient Terrain 2, il y avait du monde qui coulait du béton partout dans la ville.
Yann les saluait encore.
J'ai un mechum qui m'écrit, un mechum d'hockey. Son petit gars, il était avec nous autres. Ah, regarde, c'est lui. Il dit, tu commences par en haut, par une grue mobile. Je fais justement ça aujourd'hui. Fait que quand tu la démontes,
ouais, tu l'enlèves par en haut.
Tu l'enlèves par en haut.
C'est logique parce que tu peux pas la faire rentrer par le trou en dedans. Là.
Exact.
Moi, ce que je serais curieux de savoir, c'est quand ils font des bâtiments de très, 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 très grandes hauteurs comme à Toronto. Là, j'étais là justement pendant mes vacances. Là, tu sais, des 70-80 étages. T'en as une grue en haut complètement. Là.
C'est de ça que je parlais.
Ouais.
Est-ce qu'il y a laisse là?
Ben, elle est accrochée sur le bâtiment.
T'enlèves ce qui est en haut à l'horizontale. Là, puis j'imagine que ce qui est à l'intérieur, tu peux laisser ça là. Là, je veux dire, c'est...
Ben, dans le centre du bâtiment, tu sais, parce qu'on les voit souvent qui sont clippés sur le bord du bâtiment,
ouais,
pour qu'elles soient encore efficaces même à cette hauteur-là. Mais écoute, là, ça serait intéressant d'avoir des gens spécialisés là-dedans.
Puis autre question, peut-être que mon chum Guillaume peut m'écrire, là, mais moi, là, je déjeune. Après ça, je prends mon café. J'ai pas à monter dans une structure de 13 étages là, au travers d'une échelle.
La réponse, c'est une chaudière.
Merci, David Chabot.
Aïe, aïe.
C'est une chaudière?
Oui.
Aïe, aïe. La prochaine fois, je vais vous compter comment ça va se passer sur le Kilimanjaro. C'est ça qui vous intéresse.
C'est quand ton Kilimanjaro, toi, là?
Le 26 septembre, je décolle.
Le 26 septembre. Est-ce que tout l'argent a été ramassé? Là? T'es-tu capable d'y aller? Là?
On en ramasse encore. Là.
Oui?
Oui, oui, absolument. Toujours.
Puis Fondation on fait comment Cerveau, pour contribuer pour la Fondation Cerveau?
Directement, on a une page Facebook, en fait, là. Kilimanjaro, genre de cœur... Il rit encore
sur les
enfants de chaudière.
Guillaume écrit de ça, une chaudière. Non, non, Guillaume, je veux pas de photo de ta chaudière.
Non, pardon.
S'il vous plaît.
Fait que Kilimanjaro, excuse.
Oui, genre de cœur, genre de défi, puis il va avoir le lien pour donner. Mais tu sais, il n'y a pas de petits dons, 5 $, 10 $, 20 $. Puis nous, Marc-Antoine Reed, qui est planificateur financier, mais qui vient faire la chronique ici dans le show du matin,
oui,
a doublé une portion. Fait que quand tu donnes, ben il donne aussi. Donc, vraiment intéressant, en concurrence d'un certain montant. Là. Mais jusqu'à maintenant, on est dans les milliers ramassés, puis on est vraiment content de ça. Mais ça vaut encore, puis vos rapports d'impôts, il va avoir, ouais, un reçu, là, sachez-le.
Puis là, ton entraînement, comment ça va? T'as-tu des triceps? T'as-tu des mollets?
Ben, je te dirais.
Des abdominaux?
Comment ça... Oui, mais comme en arrière, donc ils sont encore plus forts que ceux de devant.
Ah, moi, puis David, on a ça aussi, des abdominaux. Ben, en
oui,
arrière.
Des abdos dans le dos.
Mais là, je suis stressée. Je travaille plus avec toi ces temps-ci, là.
Ouais.
Fait que là, ça a défait mon horaire avant de partir.
T'as recommencé à grossir, ouais.
Là, ben non, mais j'ai pris l'hypertrophie.
Stressée. C'est quoi ça?
Là, en fin de semaine. Plus large en muscle que j'étais, là.
Ouais.
Bon. Puis là, en fin de semaine, j'ai fait 2 fois la crête puis 1 fois le Mont-Wright la même journée.
La crête, c'est quoi ça?
C'est au Mont-Saint-Anne, la piste de ski que tu montes droite.
Ah ouais.
Tu l'as fait 1 fois ou 2 fois?
2 fois et le Mont-Wright en PM, en après-midi. Là, je m'en viens prête, je pense.
Shit. Mais non,
David, non. C'est un bon défi, ça.
Ben oui, mais ton corps, s'il est capable de reprendre le dessus, là, entre les montées, là, tu repars.
OK.
Mais je te dis pas comment mes cuisses vont aujourd'hui, là.
T'es rendu une véritable chef des montagnes.
Je m'appelle Sherpa CV.
Sherpa CV.
Mais là, je dis ça, mais j'ai peur de me jinxer, comme ils disent les jeunes.
Je peux-tu t'appeler Chèvre CV?
Non!
Non. Ben, en tout cas, je sais pas comment vous gérez ça.
Mais
à
merci, Yann, c'est rare.
Mais si, non.
C'est rare que tu me protèges de même. T'as été.
Ben non, mais c'est ça. Mais je suis un gars comme ça.
Fais
David
attention.
Chabot, c'est toujours un plaisir. Merci. On se reparle la semaine prochaine, mon ami, mon spécialiste de la grue.
De tout.
Puis Pascal, ben, on t'écoute demain.
Oui, 10h, sinon avec toi.
Sinon, ce soir, 18h avec Maître Marc Bellemare, comme à chaque lundi. Denis, Véro, Audrey s'en viennent dans les prochaines minutes. Salut tout le monde. Bye-bye.
Bye.